Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Abraham Van Helsing au Dr. Seward, 2 septembre. Mon cher ami, je reçois votre lettre et j'arrive. Je puis parfaitement partir sans attendre, aucun malade n'ayant besoin de moi pendant un jour ou deux. Je les plaindrais s'il en était autrement, car rien ne pourrait m'empêcher d'aller vers mon ami qui m'appelle pour assister ceux qui lui sont chers. Dites à ce jeune homme que le jour où vous vous êtes précipité pour sucer le poison qui menaçait d'envenimer la blessure, faite par le couteau que, dans un geste maladroit, notre autre ami avait glissé, vous avez donné à ce jeune homme, et plus qu'il ne le supposera jamais, le droit de recourir à mes soins. Et vous-même, vous êtes mis en droit de demander ses jours pour lui, et cela sans qu'intervienne le moins du monde l'importance de sa fortune. Mais que ce soit un de vos amis que j'aide, ce m'est un plaisir d'autant plus grand. Ayez la bonté de me retenir un appartement au grand hôtel de l'Est, proche de la demeure de notre malade, et prévenez la jeune demoiselle que nous la verrons demain matin, car il se peut tout de même que je doive revenir ici demain soir. Mais s'il le fallait, je retournerais à Londres dans 3 jours, et je pourrais alors y rester plus longtemps. Au revoir, mon ami. Van Helsing. Dr. Seward à l'honorable Arthur Holmwood. 3 septembre. Mon cher Art, Van Helsing est venu et reparti. Il m'a accompagné à Hillingham. Madame Westenra déjeunant dehors, nous fûmes donc seuls avec Lucie. Van Helsing l'a examinée très sérieusement. Il doit me faire part de son diagnostic, car naturellement, je n'ai pas assisté à tout l'examen. Je crois toutefois qu'il est inquiet, mais il m'a dit qu'il devait d'abord beaucoup réfléchir et chercher. Quand je lui ai parlé de notre amitié et de la confiance que vous me témoignez en cette affaire, il m'a répondu « Il faut absolument qu'il sache tout ce que vous pensez et tout ce que je pense, moi, pour autant que vous deviniez mes pensées. » Non, je ne plaisante pas. Il s'agit d'une question de vie ou de mort, et peut-être d'autres choses encore. Je le priais de s'expliquer davantage, car il avait prononcé ces mots sur un ton des plus graves. Cela se passait à notre retour en ville. Nous prenions une tasse de thé avant son départ pour Amsterdam. Mais j'eus beau le questionner, il ne voulut rien me dire d'autre. « Ne m'en veuillez pas, Art. Ce silence, chez lui, montre qu'il pense à la malade, qu'il étudie minutieusement le cas, qu'il cherche en faisant appel à toute sa science. Il parlera plus clairement quand il saura ce qu'il doit savoir, soyez-en certain. » Je lui ai donc dit que je me bornerais à vous raconter notre visite, exactement comme si je rédigeais un article spécial pour le Daily Telegraph. Mais sans paraître m'écouter, il a fait la remarque que l'air à Londres n'était plus aussi chargé de suie qu'au temps où il était étudiant. Je recevrai vraisemblablement son rapport demain. En tout cas, j'attends une lettre. Bon, maintenant notre visite. Lucie était plus gaie que le premier jour où je l'avais vue, et sa mine certainement meilleure. Elle ne regardait plus de ses yeux qui vous avaient tant effrayé, et elle respirait normalement. Envers le professeur, comme d'ailleurs envers tous ceux qui l'approchent, elle fut très aimable, et elle s'efforça de paraître très naturelle devant lui, encore que, pour y parvenir, la pauvre dut visiblement lutter contre elle-même. Van Helsing, je pense, le remarqua comme moi, car je vis qu'il lui jetait, sous ses sourcils en broussailles, le coup d'œil rapide et pénétrant que je connais depuis si longtemps. Il bavarda de choses et d'autres, sauf de nous-mêmes et de maladies, et il mettait dans ses propos tant de bonne humeur que, bientôt, chez Lucie, ce qui jusque-là n'avait été que feinte se changea en une gaieté réelle. Alors, continuant apparemment la même conversation, doucement, il en vint à faire allusion à l'objet de sa visite. « Ma chère mademoiselle, déclara-t-il, le si grand plaisir de venir vous voir m'est donné uniquement parce que l'on a pour vous un très grand amour. Et cela est tellement précieux, croyez-moi. On m'a dit que vous étiez très pâle et fort abattu. J'ai répondu, il fit à mon adresse un léger mouvement de la main. Et nous allons, vous et moi, leur prouver à tous deux qu'ils ont tort. Comment peut-il ? Et il me désigna du même regard et du même geste dont il m'avait désigné, dans sa classe un jour, lors d'un incident qu'il ne manquait jamais de me rappeler. Comment pourrait-il connaître quelque chose aux jeunes demoiselles ? Il doit s'occuper de ses malades, les soigner, leur faire retrouver le bonheur et les rendre à ceux qui les aiment. Certes, ce n'est pas rien. Mais la récompense de nos efforts, justement, c'est d'être à même de rendre aux malades, avec la guérison, le bonheur. Quant aux jeunes demoiselles, il n'a ni femme ni fille, et les jeunes filles ne se confient pas aux jeunes gens, mais aux vieux messieurs comme moi, qui ont, au cours de leur vie, vu tant de souffrances autour d'eux, si même ils n'en ont pas connu eux-mêmes, et qui en ont pénétré les causes. Aussi, ma chère amie, nous allons l'envoyer fumer une cigarette au jardin, pendant que nous bavarderons ensemble quelques instants. J'obéis aussitôt, et j'allai me promener autour de la maison. Van Helsing ne fut pas long à m'appeler par la fenêtre. Lorsqu'il m'eut rejoint, il m'expliqua. Je l'ai très bien examiné, mais je ne trouve aucune déficience fonctionnelle. Comme vous, je pense qu'elle a dû perdre beaucoup de sang, qu'elle a perdu, vous m'entendez, car il est certain qu'elle n'en perd plus pour le moment. Toutefois, il n'existe non plus chez elle aucun symptôme d'anémie. Je lui ai demandé de m'envoyer la femme de chambre à qui je voudrais poser une ou deux questions, afin d'être renseignée le plus exactement possible. Mais je sais déjà ce que cette servante me répondra. Et pourtant, il y a une cause à cet état maladif. Il existe toujours une cause à tout. Je vais donc retourner à Amsterdam et réfléchir. Vous me télégraphierez chaque jour, et si cela est nécessaire, je reviendrai. Cette maladie, car de toute façon, il s'agit d'une maladie, m'intéresse beaucoup, de même que cette charmante demoiselle. Oui, elle est vraiment charmante, et je reviendrai volontiers pour elle seule, même si vous n'étiez pas là et si elle n'était pas malade. Je vous le répète, il n'a pas voulu m'en dire davantage, même lorsque je fus seule avec lui. Maintenant, Art, vous en savez autant que moi. Ayez confiance en moi, je surveillerai de près notre chère malade. J'espère que votre père va mieux. Je me mets à votre place. Cela doit être terrible de savoir en danger les deux êtres qui vous sont les plus chers au monde. Je comprends parfaitement le sentiment du devoir qui vous fait rester auprès de votre père. Mais si l'état de Lucie s'aggravait, je vous écrirai de revenir tout de suite. Donc, si vous ne recevez pas de mes nouvelles, ne soyez tout de même pas trop inquiet. Journal du docteur Seward, 4 septembre. Notre malade zoophage est de plus en plus intéressant à observer. Il n'a plus eu qu'une seule crise, hier à midi. Un peu avant que sonnent les 12 coups, il devint agité. Reconnaissant le mal aux symptômes habituels, le surveillant fit aussitôt demander de l'aide. Heureusement, on arriva immédiatement, car alors que midi sonnait, le malade entra dans une telle fureur que les hommes n'eurent pas trop de toute leur force pour le maintenir. Au bout de 5 minutes, toutefois, il commença à se calmer et finalement tomba dans un état de mélancolie qui dure encore. Le surveillant me dit qu'au paroxysme de la crise, il poussait des cris effrayants. J'eus fort à faire quand j'allais le voir et, de plus, j'eus à m'occuper d'autres malades que ces cris avaient plongés à leur tour dans un véritable état d'épouvante. Ce qui ne m'étonne nullement, car ces cris m'ont paru insupportables à moi-même, qui me trouvais pourtant loin du cabanon. C'est maintenant l'heure du dîner pour les pensionnaires. Mais Renfield reste aboudé dans un coin, tout en ruminant quelques idées, dirait-on. Je n'y comprends rien. Un peu plus tard. Autre changement chez mon malade. À 5 heures, je suis retournée le voir. Il m'a semblé très content de son sort. Il attrapait des mouches et les mangeait, et il notait chacune de ses captures en faisant, à l'aide d'un de ses ongles, une marque sur le chambranle de la porte. Quand il me vit, il vint vers moi en s'excusant de sa mauvaise conduite, et il me demanda, me supplia presque, de le faire ramener dans sa chambre où il pourrait de nouveau écrire dans son calepin. Je crus bien faire de lui passer ce caprice. Pour le moment, il est donc dans sa chambre, dont il a ouvert la fenêtre. Il a éparpillé le sucre de son thé sur le rebord extérieur et il prend des mouches en grande quantité. Mais cette fois, il ne les mange pas. Il se contente de les mettre dans une boîte, ainsi qu'il faisait auparavant, et déjà il examine les coins de sa chambre à la recherche d'une araignée. J'ai tenté de le faire parler des jours qu'il vient de passer, car le moindre fil conducteur de ses pensées m'eût aidé considérablement dans mon travail. Mais rien ne le fit sortir de son silence. Un instant, il parut très triste et dit alors tout bas, d'une voix à peine perceptible, comme s'adressant plus à lui-même qu'à moi, « c'est fini, il m'a abandonné. Maintenant, je ne dois plus rien espérer, à moins d'agir moi-même. » Puis, se tournant vers moi d'un air résolu, il reprit, « Docteur, voulez-vous être très bon pour moi ?» Demandez que l'on m'apporte encore un peu de sucre. Je crois que cela me fera du bien. Et les mouches? Bien sûr, les mouches l'aiment, elles aussi. Et moi, j'aime les mouches. Voilà pourquoi j'aime le sucre. Et il y a des gens assez ignorants pour croire que les fous ne peuvent pas lier l'une à l'autre plusieurs idées. Je lui fis donc apporter une double ration de sucre, et c'est un homme très heureux que je quittais. Minuit. Nouveau changement chez Renfield. Je revenais de chez Mademoiselle Westenra, que j'avais trouvé beaucoup mieux, et je m'étais arrêtée sur le seuil de l'établissement, désireux de contempler encore un peu le soleil couchant, quand je l'entendis qui hurlait à nouveau, et d'autant plus distinctement que sa chambre se trouve en façade. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que je me détournais du spectacle admirable qu'offrait le soleil couchant, illuminant Londres comme à travers une brume teintée d'or, pour me retrouver devant cette façade de pierre, triste et d'aspect sévère, qui cache tant de misère humaine. J'arrivai dans la chambre de Renfield au moment même où, de sa fenêtre, je pus voir le soleil sombrant derrière l'horizon. Depuis quelques minutes déjà, la fureur de mon malade se calmait peu à peu, mais à l'instant précis où le disque rouge disparut, il glissa d'entre les mains qui le retenaient et tomba, telle une masse inerte, sur le plancher. Il est étonnant de voir à quel point nos malades peuvent soudain recouvrer la raison, même si ce n'est que passagèrement, car en l'espace de quelques minutes, celui-ci se releva très tranquillement et regarda autour de lui. Je fis comprendre au surveillant qu'il devait le laisser agir à sa guise, car je voulais voir ce qui allait se passer. Il se dirigea immédiatement vers la fenêtre et fit disparaître le peu de sucre qui restait sur la pierre. Puis il prit la boîte où il enfermait ses mouches, laissa les mouches s'envoler et jeta la boîte. Enfin, ferma la fenêtre et revint s'asseoir sur son lit. Vous ne voulez donc plus de mouches ? Lui demandai-je. Non, répondit-il. Ces bestioles de rien du tout, j'en ai assez. Que ne puis-je vraiment saisir la cause de ces crises ? Attention. Peut-être en trouverions-nous la véritable raison si nous savions pourquoi, aujourd'hui, sa fureur a atteint un point extrême à midi juste, puis au soleil couchant. Faut-il penser que le soleil a une influence maligne qui, à certains moments, affecte certaines natures, comme la lune parfois en affecte d'autres? Nous verrons.
Thank you.
Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam. 4 septembre. Malade beaucoup mieux aujourd'hui. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam. 5 septembre. Malade de mieux en mieux. Appétit excellent, sommeil naturel, bonne humeur, couleurs reviennent. Télégramme du docteur Seward, Londres, au professeur Van Helsing, Amsterdam, 6 septembre. Sérieuse aggravation. Venez immédiatement, sans perdre une heure. Chapitre 10. Lettre du docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood, 6 septembre. Mon cher Art, les nouvelles aujourd'hui ne sont plus aussi bonnes. L'état de santé de Lucie s'est un peu aggravé. Cependant, cette aggravation a eu un résultat que je n'osais pas espérer. Madame Westenham m'a demandé ce que, médicalement, je pensais de la situation présente. J'en ai profité pour lui dire que mon vieux maître, le professeur Van Helsing, venait passer quelques jours chez moi et que j'allais lui demander d'examiner et de soigner Lucie à son tour. De sorte que maintenant, chaque fois que nous le jugeons nécessaire, il nous est permis de nous rendre chez cette bonne dame sans trop l'inquiéter, ni lui causer une trop grande émotion qui serait fatale pour elle. D'autant plus que la douleur qu'en éprouverait Lucie lui serait un choc que nous devons à tout prix éviter. Tous, mon pauvre vieil ami, nous sommes devant des difficultés qui paraissent insurmontables. J'espère toutefois qu'avec l'aide de Dieu, nous en viendrons à bout. Au besoin, je vous écrirai encore. Si donc vous ne recevez d'ici quelque temps rien de moi, c'est que j'attends moi-même les événements. En hâte, bien à vous, John Seward. Journal du docteur Seward, 7 septembre. La première chose que me dit Van Helsing quand nous nous rejoignîmes à Liverpool Street fut « Avez-vous averti notre jeune ami, le fiancé ?»« Non, » répondis-je. « J'attendais de vous avoir vu, ainsi que je vous le disais dans mon télégramme. Je lui ai envoyé un mot, lui disant simplement que vous comptiez revenir examiner à nouveau Mademoiselle Westenra et que je lui donnerais des nouvelles dès que j'en aurai. « Bon, mon ami, c'est parfait. Il faut mieux ne pas le mettre au courant maintenant. Peut-être ne saura-t-il jamais la vérité. Je l'espère de tout mon cœur. Mais si cela était absolument nécessaire, nous lui dirions tout. Mon ami, comprenez-moi. Mieux que personne, vous me comprendrez, vous dont la spécialité est de soigner les malades mentaux. Nous sommes tous fous, d'une manière ou d'une autre. Et dans la mesure où vous faites preuve de discrétion quand vous soignez vos fous, vous vous conduisez de même avec les fous de Dieu, tous les autres hommes. Vous ne dites pas à vos malades pourquoi vous les soignez de telle ou telle façon. Vous ne leur dites pas ce que vous pensez. Dans le cas qui nous occupe, ce que vous savez, vous le garderez pour vous jusqu'à ce que votre conviction soit plus solide. Oui, ce que nous savons, nous le garderons là et là pour le moment. Il me toucha la place du cœur, puis le front, puis ramena son doigt à son cœur, à son front. Pour ma part, je suis déjà parvenu à certaines conclusions que je vous dévoilerai plus tard. « Pourquoi pas maintenant ? » demandai-je. « Cela nous serait peut-être utile. Cela nous aiderait peut-être à prendre une décision. » Il eut un geste de la main, comme pour m'imposer silence, et me regardant dans les yeux, il reprit. « Mon ami John, quand le blé est sorti de terre, mais qu'il n'est pas encore mûr, tant que le lait de la terre maternelle est encore en lui, mais que le soleil n'a pas encore commencé à le peindre de ses couleurs d'or, le laboureur arrache un épi qu'il écrase entre ses mains rugueusement et souffle sur le grain, encore vert, en vous disant « Regardez, c'est du bon blé, cela promet une fameuse récolte. » Je lui avouai que je ne saisissais pas le rapport entre cette allégorie et ce dont nous parlions. Avant de répondre, il vint me prendre le bout de l'oreille et par jeu le tira, ainsi qu'il en avait l'habitude quand j'assistais à ses cours des années auparavant. Finalement, il m'expliqua. Le bon laboureur parle ainsi parce qu'il sait maintenant que la récolte sera bonne, mais il ignorait avant de voir l'épi. Mais jamais un bon laboureur ne déterrera le blé qu'il a semé afin de voir s'il pousse. Les enfants qui jouent laboureurs agissent ainsi, mais non pas ceux qui cultivent la terre pour vivre. Comprenez-vous maintenant, ami John ? J'ai semé mon blé, et c'est la nature qui doit le faire germer. S'il se met à germer, tant mieux, j'attendrai que l'épi commence à gonfler. Il se tut, certain que je le suivais à présent. Bientôt pourtant, il reprit à nouveau sur un ton très grave. Vous avez été parmi les meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Vous n'étiez qu'un étudiant alors. Maintenant, vous êtes un maître, et j'aime à croire que vous avez gardé vos habitudes studieuses d'autrefois. Souvenez-vous, mon ami, que le savoir est plus important que la mémoire, et que nous ne devons pas nous fier aveuglément aux notions acquises. Même si vous avez abandonné ces habitudes d'antan, reprenez-les, et laissez-moi vous dire que le cas de notre chère demoiselle peut devenir, attention n'est-ce pas, je dis « peut devenir », d'un intérêt réel pour nous et pour les autres. Il ne faut rien négliger. Un conseil, notez même vos doutes et la moindre de vos hypothèses. Il vous sera sans doute utile, plus tard, de vérifier à quel point vos suppositions étaient justes. L'échec nous sert de leçon, pas le succès. Quand je lui parlais des symptômes que je remarquais chez Lucie, les mêmes que précédemment, mais beaucoup plus prononcés, il parut fort préoccupé, mais il ne dit rien. Il prit la sacoche qui contenait instruments et médicaments. Tout l'affreux attirail de notre profession salutaire. C'est ainsi qu'un jour, pendant une leçon, il avait appelé l'ensemble de ce qui était nécessaire à un médecin pour exercer son art.